Bonjour à tous, à toutes et à tous, en particulier tous ceux à qui j'ai pas pu dire bonjour avant le début du culte. Je sais pas si on... Ouais, c'est bon, on m'entend, super. Ouais, c'est la première fois que je suis amené à partager un message ici un dimanche matin, donc je vous cache pas, il y a un mélange de joie, de stress, de plusieurs choses. Mais je prie en tout cas que Dieu puisse nous parler à toutes et à tous. Et ouais, le titre du message de ce matin, c'est « Victoire sur la tentation ». Et ça fait quelques semaines, voire même quelques mois, qu'à titre personnel, j'étais pas mal interpellé par ce sujet, par des lectures que j'ai pu faire, par des expériences que j'ai pu vivre, ou par des choses que j'ai vues dans la vie de mes amis, ou mes frères et sœurs. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler ce matin, parce que je pense qu'on est tous concernés par ce sujet. Et pour aller vite dans le vif du sujet, je vous propose une lecture pour introduire dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 12. L'apôtre Jacques, comme souvent, il est assez direct dans son épître, il dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et il y a juste deux points que je voulais souligner pour commencer ce message, c'est-à-dire que la tentation, il y a un enjeu très sérieux. Et c'est pas vous, moi j'ai pu voir ces dernières semaines, même depuis longtemps, la tentation, c'est un peu devenu presque un argument de vente aujourd'hui. C'est quelque chose, il y a des pubs, des mails, des affiches dans la rue, c'est « laissez-vous tenter, c'est le mois de la tentation, allez-y ». Et la Bible, c'est pas comme ça qu'elle en parle. Et Jacques, il est très direct, il dit « L'enjeu, c'est que la tentation mène au péché. » Et le péché, au-delà du mal, au-delà de la désobéissance, ça a aussi un autre sens, c'est manquer le but. Passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous et des plans merveilleux qu'il a. Et je suis persuadé que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et ce serait dommage de passer à côté justement parce qu'on n'a pas su gérer correctement cette question de la tentation. Le deuxième point que je voudrais souligner dans ce texte, c'est que la tentation, ou l'épreuve, on peut traduire des deux manières, ne vient pas de Dieu, jamais. Mais elle est permise par Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui nous tente. Et la Bible nous parle de celui qui est le tentateur, Satan, le diable, il y a plusieurs termes. Et Dieu, parfois, le laisse agir. Et tout à l'heure, Jean-Haut parlait un peu du mystère, de pourquoi le mal, pourquoi si... on va parler de la réponse encore, en tout cas ce matin, je ne compte pas aborder ce sujet, mais on va prendre les choses de fait, ça existe et c'est comme ça. Et j'ai lu un livre justement qui m'a vraiment interpellé récemment qui s'appelle « Les tactiques du diable » de C.S. Lewis. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Ouais, quelques-uns. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il évoque en profondeur cette question de la tentation et de comment l'ennemi peut avoir un impact sur nos vies. Et je me suis un petit peu inspiré de cet ouvrage ce matin, dans le sens où on va un peu aborder quelques points de la stratégie, si on peut parler comme ça, on va parler un peu en termes militaires ce matin, de l'ennemi et comment y répondre. Je voulais préciser que l'idée, c'est pas de voir le diable partout. C'est pas vous, mais moi j'ai rencontré des gens qui ont tendance un peu à voir, dès qu'il se passe quelque chose de mauvais, ça y est, c'est une attaque, c'est Satan. Mais pas non plus dans l'autre extrême de dire... ouais, ça n'existe pas, ou on ne considère pas ce genre de choses, on vit notre vie comme si ça n'existait pas. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Ni donner une trop grande importance, ni le nier son existence. Et il y a une citation, alors ce n'est pas la Bible, mais que je voulais mettre dans l'introduction. Il y a un livre très connu qui s'appelle « L'art de la guerre ». Je vous dis, on parle vraiment de guerre ce matin. Qui est écrit par un général chinois qui s'appelle Sun Tzu. Je ne sais pas si je le dis bien, mais... Et il a dit... Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous sans guerre à soutenir, sans foi vous serez victorieux. Alors, ce n'est pas la Bible, mais je pense qu'il y a un peu de vrai dans cette façon de penser. Parce que si je connais mon ennemi, si je connais sa stratégie, comment il fonctionne, je vais savoir comment réagir, je vais pouvoir anticiper, je vais pouvoir reconnaître aussi, je parlais d'avoir un équilibre, savoir quand est-ce que, comment discerner si c'est une attaque ou pas. Alors, je vous propose deux lectures. La première dans Genèse, chapitre 3. Tout à l'heure, Jean-Haut en parlait, du Jardin d'Éden. Je laisse un peu de temps si certains veulent chercher. Et on lira juste après Matthieu, chapitre 4. Deux textes très connus, puisqu'il s'agit de la chute, ce qu'on appelle la chute d'Adam et Ève, et puis la tentation de Jésus dans le désert. Et en fait, on va un peu mettre en parallèle ces deux textes et voir un peu les éléments qui reviennent et comment Jésus va réagir, comment Ève va réagir et comment nous, aujourd'hui, on peut avoir les bonnes réactions face à la tentation. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. C'est notre première lecture, puis je vous propose la deuxième dans Matthieu, chapitre 4. La tentation de Jésus. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça me semble logique. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. C'est des textes qui sont très riches, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais m'arrêter sur trois aspects qui me semblent intéressants et trois clés pour surmonter justement la tentation. La première chose que je note, c'est que Satan vient toujours déformer la parole de Dieu et le cadre que Dieu nous donne. Moi, je vois vraiment, pour donner une analogie, pour moi, la Bible, la parole que Dieu donne, c'est vraiment comme un aquarium ou un espace que Dieu donne, et nous, on est un peu comme des poissons. Et c'est-à-dire, tant qu'on est dans le bocal, on peut se déplacer comme on veut, on est libre. Mais si on sort du bocal, on est hors de ce que Dieu a prévu. Et si vous sortez un poisson du bocal, je ne vous fais pas un dessin de ce qui se passe. Et la parole, pour moi, c'est vraiment le cadre que Dieu nous donne, c'est notre aquarium. Et le diable va venir un peu déformer ou chercher à nous sortir du cadre. Si on prend le cas de Ève, Dieu va venir, et Dieu, plutôt Satan va dire, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin ?» Ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Il va venir comme un peu restreindre l'aquarium. Dire, en fait, mais avec Dieu, tu ne peux rien faire, en fait. Dieu, il te contraint, il t'empêche de vivre, il t'empêche de t'épanouir, il t'empêche d'être libre. Alors que Dieu lui avait dit, vous êtes libre. Et une hypothèse que je fais, c'est ma lecture un peu personnelle du texte, mais c'est que Ève, elle ne connaissait pas très bien ce que Dieu avait dit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Genèse chapitre 2, quand Dieu donne les consignes à Adam et Ève, justement, il les donne à Adam. Ève n'est pas encore là. Il parle à Adam et lui dit, tu mangeras de tous les arbres sauf d'un seul. La deuxième chose, c'est que quand Ève cite ce que Dieu a dit, elle le cite de manière un peu approximative. Elle dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. On sent que ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Et ensuite, troisième indice qui me fait dire ça, c'est que Genèse chapitre 3, juste après, quand Dieu explique les conséquences de la chute, du péché, il reproche pas à Ève de ce qu'il lui a dit. Il dit, voilà les conséquences. Par contre, à Adam, il lui dit, voilà les conséquences parce que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais dit de ne pas en manger. Et il y a un peu on se voit qu'Ève, elle n'est pas vraiment au clair sur ce que Dieu a dit précisément. À l'inverse, Jésus connaît parfaitement tout ce que Dieu a dit, tout ce que la parole écrite dit. Et Satan, à l'inverse, va chercher un peu pour Jésus à déformer et un peu à se dire à Jésus, mais tu peux sortir du bocal. Tu peux sortir du cadre. Il va se servir de la parole de Dieu pour le pousser à ça. Il va dire, il est écrit, des anges viendront te récupérer si tu sautes, si tu te jettes du haut du temple. Et dans tous les cas, il vient déformer le cadre. Soit il le restreint et nous prive de la liberté, soit il nous fait sortir et du coup nous amène hors du plan de Dieu pour nous. Et la première clé que je trouve importante, c'est justement cette connaissance du cadre et de la parole de Dieu. Si je sais quels sont mes droits, quelles sont mes libertés, tout le bonheur auquel Dieu m'appelle, je ne vais forcément pas avoir envie d'en sortir. Et si je sais aussi quelles sont les limites que Dieu met pour mon bien, pour mon épanouissement, je ne vais pas avoir envie de les dépasser. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. La lecture de la Bible, même si c'est un des fondamentaux de la foi, je crois que c'est bon de se rappeler que connaître la parole, c'est vraiment important. On voit Adam et Ève, vraisemblablement, Ève, elle a reçu d'Adam ce que Dieu avait dit, mais il y a eu comme un intermédiaire. Et des fois, je me dis, quand on est dans une famille chrétienne, il y a un peu cette transmission orale, mais est-ce qu'on a vraiment lu par nous-mêmes ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu nous enseigne? La deuxième clé, le deuxième point en tout cas que je note dans la stratégie, encore une fois, de l'ennemi, c'est qu'il vient remettre en cause notre identité. Alors j'expliquais un petit peu plus. Quand on voit dans le jardin, Satan vient dire à Ève, si tu manges du fruit, tu vas devenir comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. En fait, il vient un peu lui dire, en fait, il te manque quelque chose. C'est pas suffisamment bien tel que tu es, il te faut en plus que tu aies de la connaissance, mais on pourra diversifier vraiment les appellations. Et en plus, je note que dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit à l'homme et la femme, enfin, il n'a pas dit, mais le texte dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Donc quand Satan dit « vous serez comme Dieu », en fait, ils le sont déjà un peu, en quelque sorte. Et il vient dire « tu n'es pas assez bien comme tu es ». Et c'est là qu'il va pointer vers l'interdit et dire « ce qui te manque, en fait, c'est justement ce que Dieu te dit de ne pas faire, ou de ne pas avoir ». Et je crois que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vices, en fait, qui viennent de là. On se dit, en fait, t'es pas complètement, t'es pas accompli, t'es pas heureux si tu ne possèdes pas ça, si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas assez productif, si tu n'as pas une certaine image, si tu ne donnes pas une certaine image, et bien en fait, t'es pas suffisamment bien. Il faut plus. Il faut toujours plus. Et c'est pas toujours des mauvaises choses en elles-mêmes, mais ça nous amène à avoir des choses mauvaises à l'intérieur de nous. Parfois on peut mettre notre identité, je ne sais pas, dans notre poste au travail, notre titre, et ça peut nous amener à l'orgueil, ou au contraire à une fausse peut-être humilité. Peut-être si on met notre identité dans nos possessions, dans notre argent, nous amener à la cupidité, à la convoitise, dans notre image, ça peut nous pousser au mensonge, à l'hypocrisie. Je crois que beaucoup de choses, beaucoup des tentations auxquelles on succombe, c'est parce qu'on n'est pas assez affermi dans notre identité. Et on va voir le cas de Jésus où Satan va faire un peu la même chose, parce qu'il va venir le voir et dire « si tu es le Fils de Dieu ». Comme si Jésus avait quelque chose à prouver. En fait, si tu es le Fils de Dieu, il faut que tu le montres, il faut que tu le prouves, il faut que tu fasses quelque chose pour attester que c'est effectivement toi. Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est que juste avant que Jésus aille dans le désert, l'épisode juste avant, c'est son baptême. Et durant son baptême, je vais vous le lire, il se passe quelque chose de particulier, Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Et je trouve ça intéressant que juste avant d'aller être tenté dans le désert, comme si même Jésus presque avait besoin de ce rappel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie, ton identité, elle est là. Et quoi qu'on te propose, t'en as pas besoin, parce que c'est ta joie, elle est là-dedans. En plus, note que c'est à ce moment-là que Jésus va... Il y a cette manifestation du Saint-Esprit un peu particulière. Et un des ministères du Saint-Esprit, une des missions du Saint-Esprit, elle est exprimée dans Galates 4, versets 6 et 7, qui nous dit « Parce que vous êtes fils, donc ça s'adresse à nous aussi, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et avant d'être tenté, Jésus, il est assuré, il est affermi dans son identité. Et je notais que, d'une certaine manière, avant que Satan vienne lui proposer du pain, il y a Dieu qui lui dit « C'est moi ton père, c'est moi qui pourvois à tes besoins. » avant que Satan vienne lui dire, faut que tu prouves ta valeur, tu sautes du haut du temple, qu'on voit si des anges te récupèrent. Dieu lui dit, t'as rien à prouver en fait. T'es déjà approuvé dans ton identité, dans qui tu es, t'es mon enfant. Et avant que Satan vienne lui dire, mais deviens le roi de la terre, le roi des royaumes terrestres, Dieu vient comme lui rappeler que, en fait, ta destinée, c'est pas juste d'être roi de ça, c'est d'être roi de tout mon royaume en fait. Et je crois qu'une deuxième clé, après la connaissance de la parole, de mes droits et des interdits, des libertés, il y a la connaissance de qui je suis en Christ. Si j'ai accepté Jésus, si le Saint-Esprit vient en moi, et ben je suis le fils, la fille bien-aimée de Dieu, je fais sa joie et je suis créé à son image. Il y a quelques années de ça, j'ai lu un livre, j'ai pas réussi à le retrouver, mais j'avais retrouvé, il y avait une anecdote qui m'a marqué, parce qu'encore aujourd'hui je m'en souviens, en tout cas en particulier une phrase, et je voulais vous la raconter, même si ça va être un peu approximatif. Je crois que c'était un des enfants de Louis XVI, quelque chose comme ça. Du coup, en tout cas un roi qui a été mis à mort. Et puis ces enfants, du coup, on les a pris, et puis je sais plus qui, pourquoi, mais on leur proposait des choses qui ne correspondaient pas à leur statut de la famille royale en fait. Et un des enfants qui répétait jour après jour, on leur proposait par exemple à manger, et il disait non, moi je suis enfant de roi et je ne me souillerai pas. Et cette phrase, elle m'est restée, et parce que je me suis dit, mais c'est ça des fois l'attitude à avoir, se dire, quoi qu'on me propose, mais je sais qui je suis enfant de Dieu, et donc je ne vais pas chercher ailleurs mon bonheur ou ma joie. C'était plus rapide que prévu. La troisième chose que je note, et là on va passer du point de vue un peu personnel au point de vue communautaire, c'est que le diable dans les deux textes s'attaque à quelqu'un qui, alors j'avais noté seul, mais pour être plus précis, qui est isolé. Alors pour Jésus c'est assez clair puisqu'il va dans le désert pour être tenté, donc c'est volontaire, il s'isole pour ça. Mais dans le cas d'Ève, en fait dans tout le texte on a l'impression qu'elle est seule jusqu'à la fin, où on voit qu'en fait non, Adam était avec elle. Depuis, j'imagine, depuis le début. Jusqu'à ce qu'Ève lui tende le fruit, il est complètement inactif, complètement passif. Et ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qui se serait passé si Adam avait peut-être réagi. Si Adam s'était dit, mais oula, ma femme est en train de se faire avoir, là, il faut que j'intervienne, surtout que c'est à lui que Dieu avait parlé. Alors, il ne s'agit pas de chercher un coupable et un responsable, mais de dire, nous, est-ce qu'en tant que communauté, on arrive à veiller les uns sur les autres, être réactifs? Il y a un autre exemple dans la Bible où on parle encore de Jésus. Jésus va être éprouvé avant d'aller sur la croix. Et il va passer par le jardin de Gethsémané. Et je note qu'encore une fois, même Jésus, il va demander à des disciples de l'accompagner. Il va leur dire, veillez, priez, restez avec moi. Alors ça peut être un grand succès parce qu'ils se sont endormis. Et Jésus va leur faire remarquer. Mais je note que même Jésus demandait de l'aide. J'aimerais nous encourager aussi, en tant qu'Église, en tant que communauté, à veiller les uns sur les autres. Pas à se surveiller, mais à veiller sur. Alors, je parle de communauté, mais ça peut être l'Église, ça peut être la famille, ça peut être le couple, plus simplement. Mais qu'en tout cas, on puisse avoir des gens sur qui compter. Et des gens, peut-être, à qui être redevable aussi. À qui dire, mais en fait, moi, j'ai cette difficulté. J'ai ce combat-là. C'est difficile pour moi. Et des personnes avec qui je vais pouvoir prier et qui vont pouvoir m'aider. Moi, je me souviens de... Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'accompagnent, qui me suivent, des mentors, et un jour, j'ai parlé dans mes combats à une personne qui m'inspire, quoi. Puis, je lui ai dit, voilà, moi, je lutte avec ça. Et en fait, j'étais un peu déçu de sa réaction. Pas parce qu'il m'a culpabilisé, pas parce qu'il m'a dit, non, c'est pas bien. Parce qu'au contraire, en fait, il a été assez passif. Il m'a dit, ouais, mais c'est pas si grave, enfin, à ton âge, tu sais. Et moi, j'aurais aimé, en fait, que la personne dise, mais... qui me secoue un peu, qui me dise, mais non, faut... C'est bien d'en parler, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et j'aimerais nous encourager, du coup, à être aussi ces personnes qui savent prendre soin les uns des autres et veiller sur nos frères et sœurs pour le bien de tous. C'était vraiment plus rapide que prévu. C'est la première, on adaptera la prochaine fois. Je voudrais juste conclure, rappeler les trois clés, tout simplement. Connaître le cadre et les libertés que Dieu me donne dans sa parole. Connaître aussi qui je suis, mon identité en Christ, et le fait que je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose à qui je suis pour être heureux. Et aussi un entourage présent, mais pas juste présent physiquement, mais activement, pour lutter contre la tentation et être vainqueur. Et un dernier point que je voudrais souligner, c'est que je parlais d'un entourage physique, communautaire, mais il y a une personne qui est toujours là avec nous aussi, qui s'appelle Jésus, et qui l'a promis. Matthieu 28, verset 20, Jésus a dit avant de remonter au ciel, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et ce texte, il a pris une nouvelle dimension pour moi à un moment. On avait un temps de prière avec des équipiers de Jeunesse pour Christ. Et à un moment, je prie, on devait prier pour un projet. Alors je dis, Seigneur, je prie que tu sois avec nous dans ce projet. Je prie que tu sois là, que tu viennes avec nous. Et il y a un des anciens, on va dire, un des piliers de JPC qui s'appelle David, qui vient me voir et qui me dit, Guillaume, j'ai bien aimé ta prière, mais tu as dit quelque chose qui m'a dérangé. Alors je me dis, oula, j'ai fait quoi encore? Et il me dit, en fait, tu as demandé que Dieu soit avec toi. Mais en fait, il a promis qu'il serait avec toi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi tu lui demandes d'être avec toi? Tu devrais juste le remercier, en fait, pour ça. Et en prendre conscience, et le vrai point, c'est prendre conscience qu'il est là. Et je crois que c'est valable aussi dans cette lutte, dans ce combat face à la tentation. On peut se rappeler qu'on n'est jamais seul, que Jésus est toujours là, et qu'en plus, en plus du fait qu'il soit là, il nous comprend. Et je voudrais finir sur un passage de Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. J'aimerais nous rappeler, je ne sais pas si certaines passent par des tentations, je n'ai pas précisé, mais le mot tentation, en grec, c'est aussi le mot épreuve. En fait, on peut traduire des deux façons. Quoi qu'il arrive, Jésus est là, et il nous comprend et il est présent pour nous fortifier. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu es venu nous chercher là où nous étions, tu es mort et ressuscité pour nous. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir cette identité nouvelle d'enfant de Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on peut surmonter aussi toutes les épreuves qui nous arrivent. Je te prie vraiment que chacun personnellement dans notre quotidien, dans ce monde qui va nous proposer toutes sortes de choses, qui nous détournent de ce que tu as prévu pour nous, je prie vraiment que tu nous donnes la force et la joie aussi de te suivre en toutes circonstances. Comme tu nous as enseigné à prier, que tu nous délivres du mal, que tu nous protèges de la tentation, et bien je prie pour cela. Et prie aussi qu'en tant que communauté, on puisse avoir cet amour, cette bienveillance et ce cœur de veiller les uns sur les autres. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.